Bonjour tout le monde, bienvenue au quatrième épisode du podcast des équipements marquis. Mathieu Cabana en compagnie de Tom Frelette.
Bonjour.
Bonne année, j'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. On adore le feedback qu'on a du podcast. Aujourd'hui, on va parler
de la journée de formation qu'on offre le 26 janvier ici en atelier. Dans le fond, on va avoir vraiment une journée complète de formation. On va regarder plusieurs sujets, des affaires que les gens se posent gros des questions. Mm-hmm. Le but de la formation, dans le fond, c'est d'éduquer les propriétaires de la machine à être capable de faire un diagnostic de base de leur problème de leur machine.
OK. Puis là, aujourd'hui, on sait que c'est pas tout le monde qui va venir à la formation. Fait qu'on va vous faire un survol de ce qu'on va parler, vous donner les grandes lignes. Si vous avez des questions, peu importe, vous allez apporter. Ou si la journée de formation peut vous intéresser, tant mieux. Mais aujourd'hui, on va faire un survol pour vous la présenter puis donner des trucs.
Ouais. Si vous entendez quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez que j'élabore un petit peu plus, donnez-nous du feedback sur notre page Facebook, ça va faire un plaisir. Fait que c'est ça. On va commencer dans le fond en parlant de la première chose qu'on va discuter pendant la formation, ça va être les règles de base de l'électricité DC, puisqu'on retrouve dans tous les types de machines sur le marché, et puis l'utilisation d'un multimètre. Okay. Le multimètre qui pour plusieurs personnes, est l'outil du diable, que personne ne sait c'est quoi, c'est miraculeux, c'est magique. Non, c'est vraiment un outil qui est très, très, très utile, en même temps, vraiment simple d'utilisation lorsqu'on comprend le fonctionnement.
Fait que tu nous dis que c'est très, très, très utile. Veux-tu élaborer un peu? On utilise ça pour quoi, premièrement?
Dans le fond, le multimètre peut être utilisé pour plusieurs types de diagnostics. Le plus commun que tout le monde connaît, c'est le test de continuité. Fait que donc, savoir si on a une continuité entre un point A, point B d'un circuit. Fait que souvent, c'est quand on touche les deux fils ensemble, on fait bip, bip, bip.
OK.
Mais ça, c'est le test de continuité commun. Par contre, il y a beaucoup d'autres tests qu'on peut faire avec un multimètre. On peut vérifier le voltage de quelque chose, soit en AC ou en DC. On peut vérifier la résistance d'un circuit. On peut aussi vérifier la fréquence de quelque chose. Fait que donc, il y a certains types de capteurs. Le plus commun exemple, un sensor de RPM, pour savoir le RPM du moteur, savoir s'il est bon. Mm-hmm. Mais avec un multimètre, on peut le tester facilement.
Okay.
On peut vérifier la température de quelque chose avec un multimètre. Fait qu'il y a plusieurs aspects, puis tout ça dans un beau format super simple à utiliser. Fait qu'on va être capable de regarder, dans le fond, les symboles qui sont sur un multimètre, qui est une règle internationale, ça veut dire toute la même chose, symbole par symbole. Donc, c'est quoi le symbole de voltage AC, le symbole d'un voltage DC, le symbole de la résistance, symbole d'une fréquence, le symbole de continuité. Fait que c'est tous des symboles. Puis souvent ça me revient parce que je vais dire à un client, bon ben vérifie exemple le voltage, ben le problème souvent les gens ont le multimètre avec eux, ils ont l'outil mais savent pas où placer le cadran du multimètre pour être capable de vérifier la bonne chose.
Ok, fait que premièrement on va apprendre comment faire fonctionner la machine.
Ouais.
Ensuite peux-tu me parler, tu m'as dit toutes les fonctions que ça avait, je sais pas exactement tout ce que c'est, fait que si tu peux me le te mettre down un peu tout.
Ben, dans le fond le voltage ça va être dans le fond le nombre de volts que ton système va avoir. Exemple un automobile ou une machine un auto, un pick-up va marcher souvent sur un système qui est 12 volts, qui est très 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 commun. Il y a beaucoup de machineries aussi qui fonctionnent sur un système 12 volts. Ensuite il va y avoir des machines, surtout des machines plus grosses vont fonctionner sur un système qui est 24 volts.
Okay.
Donc, c'est juste de pouvoir mesurer. Parce que, tu sais, exemple, si tu veux savoir si tu as de l'électricité qui se rend une composante, exemple, une lumière, tu veux voir, tu actives ta switch, ma lumière allume pas.
Okay.
Ben, pour diagnostiquer, est-ce que c'est ma lumière qui est brûlée? Fait que la première chose qu'on va faire, c'est vérifier, est-ce que j'ai du courant, est-ce que j'ai du voltage qui se rend à ma lumière? Si oui, donc, on peut assumer que la lumière est défectueuse.
Okay, fait que ce que tu ferais, tu enlèves la lumière.
On branche le multimètre à la place.
Si le courant il fait le tour, c'est la lumière qui marchait pas.
Exactement.
Okay,
une chose qui a beaucoup changé avec les années, si on recule de là 15 ans, ce qui remplaçait le multimètre, c'était le bon vieux test light, qui est ni plus ni moins qu'une lumière dans un pic. Là. Donc ouais. On pouvait vérifier, bon, est-ce que j'ai du courant, tu mettais le ground, le positif, la lumière allume. C'était bon il y a 15 ans. À cette heure, avec les systèmes qui sont de plus en plus complexes, on ne peut plus vérifier ça comme ça. Premièrement, il y a des systèmes de protection qu'on pourrait endommager en vérifiant avec un test light. Et aussi, on a à cette heure beaucoup de courants variables, de voltages variables. Donc, avec un test light, on ne peut pas vérifier la variance. L'intensité de la lumière va changer, mais ça ne nous dit pas exactement c'est quoi le voltage qui est là.
Ouais.
Fait que le multimètre va vraiment donner en chiffres qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, il y a beaucoup de systèmes électroniques à cette heure de composantes. Si ça prend, exemple, 12 à 14 volts pour opérer, en bas de ça, ça ne fonctionne pas. Le test light, lui, s'il y a 9 volts, il va allumer quand même.
OK.
C'est là où c'est beaucoup plus précis, puis ça donne vraiment une image générale à ce qui se passe.
La test light te donnerait une réponse à une question, le multimètre te donne la réponse à
plusieurs questions.
La plupart des
questions. Exactement. Puis, tu vois, le multimètre, c'est l'outil que j'ai le premier sous mon coffre d'outils que j'ai avec moi. On peut faire, il y a tellement de choses qu'on peut diagnostiquer avec un multimètre pour simplifier où qu'on s'enligne dans le diagnostic. Vérifier un fusible peut être aussi fait avec un multimètre assez facilement.
OK. As-tu d'autres exemples?
Oui, donc la résistance, dans le fond, la résistance, c'est le maudit, c'est la résistance. C'est que, donc, c'est une charge ou quelque chose que le courant ou le voltage doit passer au travers de. Donc, une lumière, le filament qui est dedans va faire une résistance.
Mm-hmm.
Fait que souvent, il y a beaucoup des composantes qui vont avoir une résistance à vérifier. Exemple, un solénoïde hydraulique pour faire activer une valve va avoir une résistance. Souvent, ça va être identifié dessus. Fait que si on veut tester un solénoïde pour savoir s'il est bon, ben on va tester cette résistance-là pour voir si elle match. Si on n'a pas de résistance du tout ou très peu de résistance, ben à ce moment-là, on peut dire que le solénoïde est défectueux.
OK. Parce que l'électricité n'est pas utilisée pour faire sa job, elle fait juste passer.
Fait que dans le fond, si on pense toujours au positif, négatif, la résistance permet de transformer cette énergie-là dans ce qu'on pourrait appeler une énergie quelconque.
Oui, oui. Dans le sens de la lumière, ça fait de la lumière.
Exemple, dans la lumière, ça fait de la lumière. Dans un solénoïde, ça va faire un champ magnétique. Donc, s'il n'y a pas de résistance entre ton positif et négatif, on en va avec un short circuit.
Okay.
Un court-circuit, ce qui va faire soit faire fondre tes fils ou faire sauter le fusible, la fuse.
Parfait. Super bien expliqué. Si je comprends, c'est super bien expliqué.
C'est quand même, puis ça, c'est des choses qu'on va pouvoir... puis au-delà, avant le multimètre, une des choses qu'on va surtout parler, c'est la loi d'ohm, qui est quelque chose qui est, sans souvenir par cœur, au moins comprendre le principe de la loi d'ohm. Dans le fond, si on prend un multimètre, on peut vérifier qu'on peut parler, par exemple, le voltage, la résistance, on peut faire aussi l'ampérage. Toutes ces trois choses-là sont interconnectées. Fait que mathématiquement, avec une règle de 3, on peut savoir la valeur manquante de quelque chose.
OK.
Fait que ça, en sachant ça, ben ça nous permet de pouvoir diagnostiquer quelque chose de trop, exemple, une ou deux manières différentes, en sachant ce qu'ils ont le point en commun. Fait que ça nous dit vraiment est-ce que mon test que j'ai fait est adéquat? Est-ce que la composante est vraiment défectueuse?
OK.
Donc, exemple, si j'ai un solénoïde, si j'ai 24 volts qui arrivent, je peux tester mon courant, puis je peux aussi tester la résistance.
Mm-hmm.
Fait que ça me permet de vérifier deux sources de mon problème. C'est est-ce que j'ai mon voltage qui arrive, est-ce que j'ai ma résistance. Puis après de ça, on peut vérifier l'ampérage, donc le nombre de courants que ça consomme entre le voltage et la résistance.
Ouais, c'est ça.
Fait que si ces trois chiffres-là balancent,
okay.
Fait que c'est, l'électricité, ni plus ni moins, c'est une règle de mathématiques simple. Il n'y a rien de compliqué. On parle pas d'électronique, on parle d'électricité DC de base.
Ouais, je comprends exactement ce que tu dis.
C'est toujours une règle de 3. Là.
C'est comme dans un problème de mathématiques. Si tu as deux des trois variables, tu es capable de trouver la troisième.
Exactement. Okay. Fait que si on simplifie ça à ça, savoir si c'est quoi les variables. Souvent, le monde il pense que comment je vais faire pour diagnostiquer ça. Ben, en ayant au moins deux des trois variables, ben là, tu peux diagnostiquer un problème assez facilement.
OK, excellent. Pour le multimètre, c'est pas mal les utilisations qu'on peut en faire?
Comme je dis, il y en a plusieurs. On peut vérifier la température.
La
température. La majorité des multimètres offrent cette fonction-là aussi.
Toi, tu utilises ça pour quoi?
Dans
la température?
La température, des fois, ça va juste vérifier la température d'une composante. Souvent, on n'a pas de heat gun avec nous à portée de main.
C'est ça.
Donc, la majorité des multimètres, je te dirais de moyenne gamme en montant, vont offrir un thermocouple, qui est un fil que tu vas venir brancher dedans, qui va te permettre de vérifier la température de quelque chose. Fait que soit la température d'un radiateur, d'un liquide, Okay. Pour avoir une référence
c'est encore un autre outil à notre ouais.
Fait que le multimètre, on peut penser à ça comme le canif suisse
de l'électricité. Ouais, c'est exactement l'expression que je cherchais.
Fait que c'est vraiment là, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder là-dedans. Puis quand on maîtrise bien cet outil-là, ça va simplifier la vie de le diagnostic en général d'un problème de machinerie.
Ouais, absolument. Puis ça peut faire sauver du temps et de l'argent.
Du temps et de l'argent. Puis aussi, quand vous appelez un technicien pour avoir de l'aide, ben vous allez parler le même langage. Fait que si le technicien vérifie le voltage, ben tu sais c'est quoi, puis tu sais comment le tester.
OK. Fait que déjà là, je pense que les gens en ont pour leur argent à venir à notre journée de formation, mais ça, c'est juste un des points.
C'est juste un des points, dans le fond, qu'on va regarder, qui est le plus important, parce que tous les autres points, on va utiliser cet outil-là pour les tester. On va aussi parler du système CAN-BUS, qui est un système, dans le fond, de communication dans la machinerie. On retrouve ce système-là de nos jours dans vraiment, littéralement, tout ce qui bouge. Les voitures ont ça depuis les années 80. La machinerie a commencé à avoir ça depuis, je te dirais, les années 90.
OK.
Donc...
Part à zéro avec moi, là. C'est quoi exactement?
Le système CAN-BUS, dans le fond, CAN, c'est un diminutif pour Control Area Network. Dans le fond, c'est ni plus ni moins qu'un réseau. Un peu le même principe que deux ordinateurs dans un réseau au bureau peuvent se communiquer.
Mm-hmm.
Ben c'est le même principe dans un véhicule. Donc on peut avoir
tous les ordinateurs communiquent ensemble.
Tout le monde communique ensemble par un message. Et puis on va expliquer comment ça fonctionne. En sachant ça, ça permet aussi d'aider à diagnostiquer le problème. Les multifonctionnels se servent de ce système-là pour pouvoir communiquer entre la tête, le module de la tête, et puis l'intérieur de la cabine. Un ordinateur, exemple, le CU moteur va communiquer avec le CU hydraulique pour transmettre les informations. Fait que c'est vraiment un protocole de communication de modules, ce qui permet aux manufacturiers de machines, au lieu d'avoir des couettes de fil énormes pour faire fonctionner chaque chose individuelle, ben au lieu, ils vont faire ce qu'on appelle du fly-by-wire aussi à cette heure. Mettre un module qui s'occupe d'une partie ou d'une région ou de quelque chose. Et après ça, au lieu d'avoir, exemple, 50 fils pour aller à l'autre extrémité de la machine ou à l'autre composante, ben tu vas avoir seulement que 4 fils. Fait que tu vas avoir une alimentation et puis les deux fils de communication.
OK, parce que t'as pas besoin d'aller du début à la fin.
Exactement.
Tu passes par le milieu.
Qui est un autoroute, ni plus ni moins, pour communiquer.
OK.
On voit beaucoup de composantes sur le CAN, donc c'est pour ça que c'est un aspect que je veux en discuter. Comment identifier un composante qui est CAN? Parce qu'il y a beaucoup de composantes qui ne fonctionnent pas si la communication est coupée. Donc, c'est arrivé à plusieurs reprises que des clients sont arrivés. Bon, ben, je veux changer cette pièce-là, elle est défectueuse. Mais qu'en réalité, la pièce est parfaitement bonne, c'est juste le réseau de communication qui est coupé à quelque part.
OK.
Puis c'est important à savoir parce que la majorité des composantes électroniques, c'est non retournable. Puis souvent, c'est assez dispendieux. Fait qu'on veut pas être obligé de changer une composante, puis c'était pas ça. Fait qu'en comprenant le système CAN-BUS, ça permet de pouvoir diagnostiquer facilement.
Okay.
Fait qu'il y a des règles, il y a des choses qu'on peut tester avec le multimètre encore, qui nous permet d'identifier, bon, est-ce que notre circuit est complet.
OK. Fait que ça se teste avec un multimètre ou c'est plus un ordinateur?
Dans le fond...
Je te donne l'exemple, là, comme sur les autos, je sais que tu peux plugger l'auto, puis que tu peux faire un diagnostic de l'auto avec un ordinateur,
peu importe. Oui.
Fait que c'est-tu quelque chose qui ressemble à ça? C'est-tu...
Dans le fond, le système CAN-BUS peut se tester facilement, de base, avec un multimètre. Donc, on est capable de facilement diagnostiquer, bon, est-ce qu'on a un problème avec notre réseau CAN-BUS avec le multimètre? Par contre, le multimètre nous dira pas tout à propos d'un réseau CAN-BUS. Mais heureusement, on va nous dire assez pour être capable de diagnostiquer le problème. Souvent, un ordinateur ou ce qu'on va appeler un CAN-checker va nous dire vraiment qu'est-ce qui se passe dans le signal. Là. Va nous mettre
plus en détail.
En détail, c'est quoi les messages qui
se disent. Ouais, exactement. Okay.
Pour nous, on ne rentre pas là-dedans parce qu'on tombe dans un niveau assez complexe.
Ouais, c'est un outil que pas tout le monde a accès.
Exactement, ça va être vraiment t'sais, la compréhension de ça est plus complexe.
Bon.
Mais comment tester le réseau à sa base devient quelque chose qui est facile que tout le monde peut faire avec un multimètre.
OK, excellent. Je pense que c'était Ça, c'est clair. Parce ouais. que pour le prochain point.
On va parler de méthode de diagnostic.
OK.
Un point aussi qui est important à discuter parce que souvent, les mondes... nous, on a la règle de base, on va toujours aller du plus...
Oh, t'as encore oublié de fermer ton téléphone.
J'ai encore oublié ça.
C'est pas grave. Aux vidéos, on peut couper le podcast. Ben.
Ouais, fait que, encore une fois, vous voyez, je suis bien populaire. C'est ma blonde en plus. La dernière fois aussi, c'était ma blonde, juste le mentionner.
On est samedi.
Ouais, on est samedi. Donc, pour revenir, la méthode de diagnostic. C'est important d'avoir une bonne méthode de diagnostic quand on cherche un problème parce que ça va sauver énormément de temps. Tu sais, on dit toujours, ben, on commence du point A puis on se rend au point B. C'est le même principe dans une méthode de diagnostic. On veut toujours y aller du moins intrusif au plus intrusif.
Oui, certainement.
Donc, exemple, si vous avez une composante hydraulique qui ne fonctionne pas, ben, avant de démonter la composante puis aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans, ben, on veut aller avec les tests les plus simples, les plus faciles.
Oui, ça fait bien de sens.
Oui, mais tu sais...
C'est de savoir l'ordre, dans le fond.
C'est de savoir l'ordre. Puis tu sais, il y a une logique en arrière de ça. On va mettre ça en perspective. La lumière n'allume pas sur ta machine. C'est quoi la première chose que tu devrais vérifier? Non, mais toi, tu ferais quoi? Là?
Je vérifierais s'il y a du courant.
Ouais. Fait que la première chose, avant de vérifier qu'on a du courant, plus simple que ça, est-ce que le fusible est bon?
Ah, ouais.
Fait que ça arrive souvent qu'on fait encore des déplacements pour changer des fusibles. Puis souvent, ben, les clients sont pas contents parce que c'est une niaiserie. Fait que juste là, si on va voir, bon, mon fusible est pas bon. On va le remplacer. Est-ce que le problème persiste? Est-ce que le fusible sort? Fait que c'est d'aller avec une méthode de diagnostic qui est un bon ordre pour sauver du temps. Puis aussi, ce qui est important dans la machinerie, c'est de séparer ou isoler les circuits. Donc, dans toutes les machines à cette heure, on va avoir des circuits électriques, des circuits hydrauliques. Et puis après ça, on va avoir des composantes qui sont électro-hydrauliques. Fait que cette composante-là peut être testée du côté électrique et du côté hydraulique. Fait que souvent, c'est là où ce qui est important. Bon, est-ce que mon problème est hydraulique ou est-ce qu'il est électrique?
Okay.
Fait que c'est important d'isoler ces deux choses-là au début pour s'enligner dans la bonne direction. Parce qu'on peut partir complètement dans la mauvaise direction, essayer de trouver un trouble hydraulique qui est vraiment en réalité un problème électrique ou vice-versa.
Oui, ça me semble quelque chose qui va sauver gros du temps. Est-ce que c'est quelque chose qu'on passe gros du temps durant la journée de formation?
Oui, dans le fond, au travers de la journée, on va prendre des composantes, on va avoir des pièces de machinerie qu'on va pouvoir pratiquer vraiment en live dessus pour essayer de déterminer. Pratiquer justement l'ordre de diagnostic, qu'est-ce qui est à faire.
OK, fait qu'on rentre vraiment en détail dans ce point-là.
Oui, fait que dans le fond, c'est un point qu'on parle en début de formation puis qu'on essaie de faire appliquer sur toutes les prochaines choses qu'on va voir dans le fond dans la formation.
OK.
Comme ça, vous avez... Tu sais, la chance de bon, mais c'est quoi le pattern que je devrais entreprendre quand je veux faire un diagnostic de problème?
Ouais, excellent. Je pense que c'est super bon.
Ensuite, dans la formation, on va discuter de composants. Comment identifier une composante, c'est quoi? Souvent, le client va appeler, bon, ben, ma valve est défectueuse. Mais lui, ce qu'il regarde, c'est pas une valve. Moi, une valve, pour moi, c'est une valve hydraulique. Ou une valve, mais lui, le client, ce qu'il voit dans le fond, c'est un solénoïde.
OK.
Ou c'est un coil. Fait que c'est vraiment d'identifier les composants. Fait que voir c'est quoi la différence de un versus l'autre. Pour que quand justement le client veut commander une pièce ou demander de l'information en détail pour se faire réparer, que tout le monde parle le même langage.
OK. Puis ça, c'est quelque chose que tu rentres vraiment en détail?
Oui, on rentre en détail dans chaque composante. Donc, exemple, c'est quoi la différence entre un capteur inductif et puis un encodeur. Toutes les deux peuvent être appelées des sensors, mais c'est pas le même type de sensor. Fait qu'on va rentrer en détail dans le fond dans chaque composante où ce qui peuvent être utilisés puis à quel but, comment qu'ils fonctionnent.
Ouais, c'est quand même assez incroyable pour vrai. J'apprends en même temps que les gens c'est quoi qu'il va y avoir dans la journée de formation puis j'aimerais rappeler que c'est une journée de formation qui est gratuite, là. Puis je pense que ça va avoir vraiment une valeur beaucoup pour les gens qui vont être là.
Fait qu'on va regarder aussi, dans le fond, comment c'est ça. Dans le fond, non seulement c'est quoi la composante, comment elle elle fonctionne, mais comment la tester aussi. Il y a plusieurs outils, dont le multimic qui peut faire, puis il y a d'autres tests simples qu'on peut faire pour tester une composante. Comme je dis, toujours dans le but d'aller du moins intrusif au plus intrusif pour essayer de diagnostiquer notre problème. Dans l'exemple d'une valve, un test ultra rapide pour savoir si on a du courant qui s'en vient, sans même sortir le multimic, c'est de prendre un tournevis et puis voir est-ce qu'on a un magnétisme à notre valve.
Ouais.
Déjà là, c'est un bon indicatif, bon ben, ok, j'ai de l'électricité. Fait que c'est de partir de là, puis de pouvoir prendre des petits trucs comme ça pour nous aider à diagnostiquer notre problème. Souvent, on n'a pas toujours les outils qu'on veut, même si tout le monde devrait avoir un multimètre avec eux.
Ouais.
Mais en faisant des petits tests comme ça, ben, ça nous permet de voir. Puis souvent, les composantes vont avoir des protocoles ou des indicateurs qui vont aider à faire le diagnostic de la composante. Souvent, ça peut être des lumières d'ailes, ça peut être des activations manuelles. Fait que c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des composants pour que les gens peuvent les reconnaître sur les machines et dire oui, ça c'est ça, puis je peux vérifier s'ils fonctionnent d'une manière simple.
Mm-hmm. Fait que on lésinera pas cette journée-là, il va y avoir beaucoup de contenu.
Non, c'est
là,
ça, c'est une journée vraiment, c'est pour ça qu'on demande aux gens d'arriver à l'heure, même de bonne heure, pour qu'on puisse commencer. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu, on a malheureusement juste une journée pour en passer. Puis c'est sûr qu'on veut axer vraiment sur la pratique. De ce qu'on va apprendre.
Ouais, c'est certain.
Pour qu'on puisse s'en souvenir le plus possible.
Okay.
Donc, c'est ça, on va regarder les types de capteurs, les types d'encodeurs, qui est ni plus ni moins qu'un autre type de sensor. Fait que dans le fond, qui va donner un signal différent qu'un un capteur inductif. Fait que c'est quoi la différence, où est-ce qu'ils vont être utilisés. On va regarder comment tester un fil électrique. Fait que c'est vite de même, ça a l'air simple, tu prends un fil électrique qui a exemple 12 pouces, on va vérifier le multimètre à chaque côté, est-ce que notre fil a une continuité. Bon, fait que ça c'est facile, mais exemple si notre fil a 50 pieds, comment qu'on peut faire pour le tester sans être à chaque bout du 50 pieds avec notre multimètre? Il y a des trucs qu'on peut faire. Là.
Okay.
Fait que surtout exemple les fils de boom pour les multifonctionnels, il y a plusieurs tests simples qu'on peut faire comme ça pour dire, regarde, t'es pas obligé de tout démancher. Ou tu peux le faire à partir de l'intérieur de la cabine.
Ouais, ça me semble être toute l'information qui est super
c'est vraiment
pertinente, puis ça sauve du temps incroyable.
C'est toute une question de trucs puis de méthodologie au niveau du diagnostic. Souvent, on va remarquer les gens vont partir du mauvais côté de l'équation, si on veut,
mm-hmm.
pour avoir plus une perte de temps, d'argent que rien, quand que en utilisant la méthode, comme que je dis, moins intrusive ou plus intrusif. Tu sauves gros du fuckoyage, comme on
va dire. Ouais, non, puis ça me semble être juste une logique, mais quand tu la connais pas, c'est tu y vas avec l'essai puis l'erreur, puis ouais. T'apprends, mais là, les gens vont avoir l'occasion d'apprendre de quelqu'un qui fait ça tous les jours depuis
exactement.
Longtemps.
On va aussi parler comment tester une valve hydraulique. Donc, un peu comme on avait vu dans le vidéo présentoir de la formation, on va regarder la valve hydraulique, ses composantes, comment la tester. On va aussi regarder d'autres types de valves hydrauliques, juste à type, dans le fond, visuel, pour dire, bon, ben ok, ça c'est un type de valve de tel genre, exemple, une valve à cartouche versus une valve DSG, comme qu'on a vu dans la vidéo, une valve manuelle. Et puis aussi, s'il nous reste assez de temps dans la formation, je vais faire un survol vite sur l'électroproportionnel des circuits hydrauliques. C'est rendu quelque chose qui est standard dans toutes les machineries à star, on en voit partout. Puis c'est un concept que les gens ne comprennent vraiment pas bien.
Ok, inclure à moi, fait. Vas-y,
en fond, quelques minutes. Un système électro-proportionnel, la clé réside dans le mot proportionnel. Donc on peut prendre une valve hydraulique et la faire activer sur une plage de 0 à 100% proportionnellement. Donc, on peut faire activer notre valve à 25%, à 50%.
Okay.
Versus, dans le temps, on parlait d'une valve qui était simplement on-off. Ouais. Fait que dans le fond, on va parler en général, pour avoir un circuit proportionnel, ça nécessite certaines composantes. C'est quoi la job de chaque composante? Et puis, savoir par où commencer notre diagnostic.
OK, excellent. J'ai compris quand tu l'as expliqué comme ça.
Euh, Fait que ça, c'est une des choses qu'on va parler plus en fin du cours, vu que c'est carrément si on pourrait passer un cours au complet seulement là-dessus. Mais au moins, pour décrire les gens, puis un peu démystifier c'est quoi ce type de circuit hydraulique-là. Comment ça fonctionne, puis c'est quoi le lien entre l'hydraulique et l'électrique, parce que les deux fonctionnent main dans la main dans ce type de circuit-là.
OK, excellent. Y avait-tu d'autres points que tu veux apporter pour la formation?
Oui, on va aussi faire un survol. Je vais avoir quelques systèmes de mesure, quelques différentes machines à l'intérieur pour montrer aux gens que les ingénieurs qui font les machines, ben ils comprennent qu'à un moment donné, ça va briser puis qu'il va falloir faire du diagnostic. Okay. Donc, la majorité des machines à cette heure vont avoir des écrans. Ils vont avoir des modes de service pour pouvoir aller faire un diagnostic de base. C'est souvent quelque chose qui est négligé. Souvent, les gens vont voir un code d'erreur arriver ou quelque chose qui arrête de fonctionner. Mais on peut aller vérifier grâce à l'ordinateur, si c'est disponible dans le type de machinerie, bien sûr, qu'est-ce qui se passe. Fait que, est-ce qu'on peut voir vraiment souvent nos inputs puis nos outputs, qu'est-ce que l'ordinateur veut faire, qu'est-ce que l'ordinateur a besoin de voir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un ordinateur de machine, c'est juste aussi bon de qu'est-ce qu'on lui dit de faire, qu'est-ce qu'elle voit.
Mm-hmm.
Donc, en sachant le principe aussi de ça, ça nous aide à diagnostiquer le problème d'une manière beaucoup, beaucoup plus simple.
OK, puis tu parles de machinerie que tu vas rentrer puis que tu vas donner des exemples, tu peux nous dire oui, exactement ces détails d'abattage?
Exactement, je vais avoir une multifonctionnelle qui va être à l'intérieur, dans le fond, qu'on va pouvoir vraiment regarder, faire des tests dessus, un système de mesure complet. On va avoir des joysticks, plusieurs composants différents, on va avoir des machines, je vais rentrer une accélératrice, un tracteur,
okay.
Pouvoir, dans le fond, les méthodes simples de diagnostic qu'on peut regarder.
Ah, excellent, ça... Je commence à avoir hâte. Je vais être là toute la journée avec toi pour t'aider. Il va y avoir toi, est-ce qu'il va y avoir d'autres employés ici qui vont t'aider durant
cette journée? Oui, dans le fond, moi je vais être là. Je vais avoir quelques techniciens aussi qui vont être avec moi juste pour aider le groupe, dans le fond. Vu que je ne pourrais pas être partout en même temps. Fait que c'est des genres de questions qu'on peut savoir plusieurs personnes ressources. Dans le fond, c'est vu que c'est un samedi matin aussi, les gens qui ont des commissions à faire en même temps, notre magasin va être ouvert de 8 à midi. Okay. Donc, à partir de là, on va avoir quelqu'un aux pièces qui va pouvoir vous servir si jamais j'avais des choses à acheter en même temps. Fait que ça va être une belle journée, un beau lunch, des hot dogs.
On va faire ça, on va le faire un beau lunch.
Ouais, un beau petit lunch.
Puis c'est bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Tu voulais-tu mentionner quelque chose avant qu'on termine?
Oui, je pense que pour le prochain podcast, on va un peu déroger de notre globe normal qu'on discute. Je pense qu'on va inviter Steven Marquis à venir faire un petit tour, parler de sa machine. Sa saison de course commence dans, si je me trompe pas, 2 semaines.
Ouais, Steven qui travaille ici avec nous autres, tu viens de mettre de la pression, là, il n'y a comme plus le choix.
Ouais, on va l'avoir. Il n'y a plus le choix. Donc, là, je sais qu'est-ce qu'il va dire, mais qu'il voit la vidéo. Hein. Fait qu'il il va venir avec nous discuter un peu de c'est quoi sa saison de course, comment ça se déroule, c'est quoi dans le fond le behind the scenes d'un pilote de motoneige dans le fond.
Ouais, parce qu'on l'a dit là, mais dans les premiers podcasts, je pense, mais Steven, c'est à un haut niveau ce qu'il fait là. Puis je pense que TVA Sport était ici la semaine passée pour faire une chronique sur lui. Puis c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. Là.
Steven, dans le fond, est au niveau professionnel. Puis souvent les gens savent pas c'est quoi. C'est pas comme dans un film où que la personne ne fait que ça et est assis sur son divan le reste de la semaine là, ouais. Steven travaille quand même fait que c'est comment qu'il fait pour partager son temps puis les pratiques, qu'est-ce que ça inclut, fait qu'on va vraiment discuter avec lui, savoir c'est quoi son setup, qu'est-ce qu'il fait là.
OK, puis y avait-tu d'autres choses que tu voulais mentionner avant qu'on termine?
D'accord, vous souhaitez une bonne année, l'hiver achève dans quelques mois, malheureusement. Mais ça achève. Et puis, c'est pas mal tout.
Good. Voulais-tu mentionner les brands qu'on a ici en magasin, nos commanditaires? Ce que les gens peuvent avoir des équipements marqués, dans le fond?
Oui, c'est quoi qu'on fait? Dans le fond, non seulement on est concessionnaire de machinerie, on vend les produits Yanmar, Neuson Forest,
Wacker Neuson,
AFM Forest. On vend aussi, on a vraiment un grand département.
Il y a Kessler
aussi.
On ne veut pas oublier.
Ils sont tous là. Hein, Kessler.
Ouais, je pense que c'est ça qui manquait.
Et puis, fait que ça, dans le fond, oui, on fait ça. On fait la vente, la réparation de ces machines-là. On a aussi un énorme département de composantes hydrauliques. Donc, de toutes sortes, toutes marques. On peut faire des remplacements, on peut faire complètement de la création de système. Des boyaux, bien sûr. On a aussi un service d'affûtage de chaînes de multifonctionnel qui est à faire.
Okay.
Fait que je pense que ça vaut la peine que vous ayez fait un tour sur notre page Facebook, sur notre site web, voir tout ce qu'on peut faire. La liste est vraiment longue pour énumérer le tout. Là.
Ouais, ouais. Fait que si vous êtes dans le domaine, faites juste penser les équipements ouais. marqués.
Venez vraiment... faire un tour. On est ouvert les samedis, 8 à midi, par curiosité. On a fait un aménagement même dans notre magasin pour changer les choses de bord un peu. Ça faisait quand ouais. même au-dessus de proche 20 ans que le magasin n'avait pas changé de bord. Mais là, on a fait un petit agrandissement par en dedans, comme on peut dire, un beau petit showroom.
Oui, on va avoir un showroom. Il va y avoir des machines en dedans, juste à l'entrée, pour que les gens puissent ouais. Regarder ça au show.
Fait que gênez-vous pas, venez faire un tour. Ça va nous faire un plaisir de répondre à vos questions. Comme je dis, du petit projet au plus grand projet, soit de la quincaillerie, une strap... comme je dis, on a vraiment un peu de tout. Si on peut pas vous aider, on va vous référer dans la bonne direction.
Parfait. Bon, on va vous remercier pour avoir pris le temps de regarder le podcast ou de l'écouter si vous l'avez écouté sur l'Internet en version podcast. Si vous nous écoutez en version podcast, je vous invite à subscribe à notre podcast, nous suivre pour que vous puissiez savoir dès qu'on sort un épisode, vous allez les avoir disponibles sur vos téléphones. Si vous nous regardez sur Facebook, peu importe, s'il vous plaît, nous suivre. On a beaucoup de trucs intéressants sur notre page. Là. C'est vraiment pas juste de la vente. On se force vraiment pour vous apporter du contenu qui vous intéresse. Puis une fois de temps en temps, c'est sûr qu'on présente nos machines. Mais suivez-nous. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup. N'oubliez pas, si vous avez des sujets, n'importe quoi, que vous voulez nous entendre discuter, vous avez des questions, notre page Facebook est là. On répond quasiment tout le temps. Assez rapidement, fait que ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Si vous voulez qu'on fasse une chronique là-dessus, un podcast, n'hésitez pas, on est là pour ça.
Good. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci.
À la prochaine.